Tout un monde,
Marie-Hélène Freissé.
Le magazine des cultures et des identités en mouvement. Bonsoir à tous. Corps humain, corps divin, les cheminements de la tradition. Une rencontre avec l'historien du judaïsme, Jean Baumgarten, qui publie « Le petit monde, le corps humain dans les textes de la tradition juive de la Bible aux Lumières » chez Albin Michel. Voilà des chants du Shabbat pour ce samedi soir sur France Culture. Alors, sommes-nous notre corps et rien d'autre? Ce corps, matériel, biologique, est-il habité par un souffle, une âme, un esprit, susceptible de s'en séparer, notamment après la mort? Est-ce qu'il faut concevoir le corps, sa matérialité, comme du même ordre que l'esprit et en relation directe avec le divin? Autant de questions parmi beaucoup d'autres auxquelles les religions du livre, issues de la Bible, s'efforcent de répondre, chacune de manière singulière, en entretenant d'interminables débats sur le sujet et en déduisant des codes de conduite en matière d'hygiène, de sexualité, de régime alimentaire, des codes d'ailleurs assez évolutifs au fil du temps. Aujourd'hui, donc, nous regardons du côté de la tradition juive avec vous, Jean Baumgarten. Bonsoir.
Bonsoir.
Et à travers, l'usage constant qui est fait dans la tradition juive de la critique textuelle, qui a développé, notamment autour du corps, vous le montrez bien dans cet ouvrage, une réflexion absolument foisonnante, et d'ailleurs en des termes parfois si contradictoires, que cette tradition de la critique des textes invite à questionner même la notion de tradition religieuse juive, telle que vous le faites d'ailleurs à la fin de ce livre, tellement ça part dans tous les sens.
Oui, ce livre est parti d'une constatation, c'est effectivement ce pullulement de textes autour du corps, et en même temps, en lisant des histoires du corps qui sont parues récemment, j'ai été frappé de voir combien, en dehors, disons, de la tradition gréco-latine et chrétienne, il y avait peu de considérations sur la manière dont on envisageait le corps dans d'autres traditions religieuses, depuis l'Inde, l'Asie, jusque le monde musulman et aussi le judaïsme. Donc ça m'a donné envie d'explorer ce vaste domaine en partant du verset de la Genèse. Il y a deux histoires de la création dont on parlera, et à partir desquelles on voit qu'il y a eu un foisonnement, un pullulement de textes autour de ces réalités somatiques et aussi de la relation entre l'ici-bas, le monde terrestre, enfin les réalités somatiques, le microcosme, et les réalités supérieures, le plérum, le monde divin, et donc le macrocosme, conçu aussi comme l'univers dans sa totalité, avec les planètes, les astres, et donc de voir les relations qui peuvent exister entre les deux. Et toute cette réflexion du corps est fondée justement, non pas simplement sur le fait qu'il y ait deux domaines, le haut et le bas, mais quelles sont les passerelles, les ponts, les relations, les correspondances entre les deux.
Bon, on va peut-être tout de suite alors plonger dans le texte de la Genèse.
Oui, alors ce qui est important, c'est de voir que, selon le premier récit, c'est Dieu crée le monde à partir du nom divin, des lettres Et il nomme les choses, que ce soit les créatures humaines ou les animaux et les plantes. Donc c'est très important le fait qu'au départ, il y ait cette création à partir de l'hébreu, de la lettre, du mot et de la nomination. Et c'est donc l'être humain qui est créé, donc ça c'est le premier récit. Et la particularité, c'est que la créature est androgyne, elle est à la fois homme et femme, et qu'ensuite il y a une séparation et une division de ces deux éléments. Donc ça, c'est le premier récit dans lequel, donc, comme je vous le disais, la langue, enfin la parole, enfin, de Dieu est tout à fait centrale. Il y a un autre récit de la création dans lequel Dieu crée d'abord le premier
homme. Un autre qui se trouve où ?
Dans la Genèse aussi, puisque la Genèse est un assemblage d'unités textuelles extrêmement disparates et parfois même désordonnées avec des contradictions, mais qui permettent aussi d'interprétations, une lecture infinie et toute une suite ininterrompue de commentaires et d'interprétations. Et donc dans ce deuxième récit, on voit donc la création de Adam Harishon, c'est-à-dire le premier homme. Et Dieu prend soit d'un côté ou d'une côte donc du corps d'Adam, donc il prend une côte ou un côté, et à partir de ce
une côte ou un côté, c'est pas la même chose.
Non, quoi. C'est pas la même chose, mais le mot est ambigu. Et d'ailleurs, toutes les interprétations sont fondées sur cette polysémie et sur le fait que les termes bibliques, le lexique biblique et aussi les versets bibliques sont extrêmement ramassés, où il y a des télescopages de récits, et ce qui donne évidemment une lecture, une interprétation infinie avec la possibilité de jouer, de mettre en parallèle des interprétations tout à fait différentes. Donc il y a cette deuxième création, donc à partir de l'homme, donc Ish, donc Isha, avec l'adjonction de la lettre du nom divin, le He, et donc la création de d'Ève dans le paradis, jusqu'à la faute qui crée une séparation, une confusion entre ce principe du masculin et du féminin.
Alors à partir de là, quel va être le statut du corps ? Parce que vous insistez beaucoup dans ce livre, Le Petit Monde, sur le fait que dans la tradition juive, il n'y a pas de dualisme. Il n'y a pas un corps au sein duquel, à l'intérieur duquel se trouve hébergée en quelque sorte l'âme, qui est un peu prisonnière et qui s'échappe au moment de la mort. Ça va être par exemple la tradition chrétienne. Non, pas ça, dans la tradition juive.
C'est que dans la tradition juive, si on prend là, on se réfère au terme et au mot, le mot neshama, qui veut dire l'âme, peut être aussi considéré comme nishma, c'est-à-dire le respire, le souffle, la respiration de Dieu. Donc on peut prendre le fait que Dieu insuffle cet esprit à la matière d'un point de vue spirituel, enfin de dématérialiser donc cette création, en considérant qu'elle est vraiment du domaine de la transcendance et du souffle divin, mais on peut aussi considérer, à partir d'images corporelles, comme la respiration, le respire de Dieu qui souffle sur cette matière inerte et qui, comme d'ailleurs dans le mythe du golem, crée la vie, crée le vivant.
Donc ça veut dire qu'il y a une continuité entre le corps et le verbe, l'esprit, tout est... voilà, ce n'est pas l'un qui, en quelque sorte, héberge l'autre.
Alors, bon, oui, effectivement, il y a cette tendance-là donc à montrer l'unité, la complétude et l'intégrité et la relation entre la matière et l'esprit. Mais il y a des courants à l'intérieur du judaïsme, puisque la tradition est extrêmement complexe et avec des courants radicalement différents. Il y a aussi des courants qui sont inspirés par la gnose, qui sont inspirés par les débuts du christianisme, qui sont inspirés par des doctrines de l'Orient ancien, dans lequel il y a une prédominance, une préséance de l'esprit sur le corps. Donc on a absolument toutes les gammes possibles de représentation du corps, aussi bien des représentations extrêmement somatisées, matérialisées, et au contraire des considérations, des conceptions du corps qui sont très quintessencisées, essentialisées, et qui ont au contraire privilégient l'âme, l'esprit, ce qui n'est pas du tout du domaine du matériel. Et au contraire, le matériel et le corps serait dans ce cas-là plutôt discrédité ou considéré comme l'espace de toutes sortes de forces destructrices, du désir, du plaisir, donc qui serait plutôt négatif.
Avec cette musique de synagogue de l'époque baroque, donc nous poursuivons cette réflexion avec vous, Jean Baumgarten, sur le corps humain, le corps divin et les cheminements de la pensée juive sur ce rapport entre le corps, l'âme, le divin. Alors, dans ce livre, Le Petit Monde, le corps humain dans les textes de la tradition juive, donc, on va y venir tout à l'heure, vous nous expliquez comment ces représentations dont on vient de parler très rapidement débouche donc sur des pratiques d'hygiène, des pratiques sexuelles, etc. Tout de suite, il y a aussi un chapitre très intéressant, c'est sur les représentations du divin, du corps divin. Et là, on s'aperçoit, curieusement, moi je dois dire ça m'a surprise, que dans la tradition juive, finalement, Dieu est plus représenté comme un corps, comme une personne avec un bras, des doigts, et même, dites-vous, à un moment, j'étais absolument ahurie, un phallus. Or, je croyais que dans la tradition juive, justement, Dieu était beaucoup plus abstrait, puisqu'il y avait des tabous sur la représentation de Dieu.
Le but du livre, c'est justement de montrer la complexité de ces traditions et d'un peu inverser le schéma un peu courant et la doxa, disons, sur le corps humain dans le judaïsme, et de montrer qu'il y a deux conceptions diamétralement opposées. La conception dominante, c'est celle qui est incarnée par Maïmonide, et notamment dans le Guide des Égarés, qui considère qu'il y a une sorte d'incorporéité du divin, c'est-à-dire l'impossibilité de la représentation matérielle de Dieu, qui est au-delà de l'entendement, au-delà des catégories intellectuelles qui permettent de l'appréhender. Et donc c'est très proche, d'ailleurs on a fait des comparaisons avec ce qu'on appelle la théologie négative, qu'on appelle dans le judaïsme le derer halo, c'est-à-dire la voie du non, la voie du fait de décrire Dieu par des attributs négatifs. Il n'a pas de passion, il n'a pas de finitude, il est infini, donc il y a toute une... On décline enfin des attributs négatifs pour pouvoir appréhender Dieu, étant donné qu'il dépasse la possibilité que donne le langage de le définir. Et puis, il y a des courants plus souterrains, plus marginaux, dans lesquels...
Plus populaires, peut-être.
Oui, plus populaires, exactement. Par rapport à ces traditions, disons, un peu de l'élite
abstraite,
rabbinique, des philosophes, dans lesquels Dieu a un corps. Bon, ce sont des représentations qui, bien sûr, plongent leurs racines dans l'Orient ancien, puisqu'on trouve ça aussi bien en Inde, dans les traditions asiatiques, entre autres, et puis aussi dans l'Orient ancien, en Mésopotamie, en Égypte, donc, où il y a une représentation du divin sous forme, notamment d'un roi qui est assis sur un trône et entouré de ses messagers, les anges. Et donc, dans le judaïsme, on retrouve toutes ces images d'un dieu qui est anthropomorphisé. Il y a notamment ce qu'on appelle des midrashim, c'est-à-dire des petits textes de commentaires de la Bible, dans lesquels Dieu, on parle du pied de Dieu, des yeux de Dieu, des mains de Dieu, et on retrouve cela dans la Bible, puisque dans l'Exode, dans le récit donc du don de la Torah à Moïse et ensuite au peuple d'Israël, eh bien, Dieu apparaît dans une nuée, dans un nuage, dans une sorte de tonnerre et de brouhaha. Et le texte parle justement de Dieu qui s'adresse à Moïse. Donc, on parle de sa bouche, on parle de son corps.
Et
donc,
son visage, très son important, visage, oui. Le visage, la face.
Voilà, la face.
Et là, alors, ça rejoint les autres religions du livre.
Voilà.
Qui, elles, même l'islam, accepte. Je crois, entre parenthèses, cette idée de face. C'est peut-être la seule partie du corps divin qui est acceptée par tout le monde.
Oui, qui est acceptée et en même temps qui est invisible, puisque quiconque pourrait regarder ou voir le visage de Dieu serait immédiatement terrassé. Donc c'est à la fois dans la rencontre avec l'autre, avec autrui, c'est vraiment le visage qui est la partie essentielle du corps pour connaître l'individu, son caractère. Mais en même temps, il y a toujours ce jeu entre le révélé et le caché. Et on a donc dans cette métaphore du visage divin, cette relation entre l'icône qui n'est pas Dieu, mais qui est une représentation matérialisée, enfin illustrée, figurée de Dieu, et puis un Dieu invisible qui est perdu donc dans l'infini. Et donc il y a tout ce jeu entre la transcendance et l'immanence, par l'intermédiaire donc du visage qui est le lieu essentiel de représentation du corps divin.
Culture, tout un monde. Marie-Hélène Freissé.
Jean Baumgarten, nous écoutons ce beau chant liturgique. C'est vous qui l'avez choisi. Qu'est-ce que c'est ?
Oui, c'est ce qu'on appelle des piyutims. C'est des chants paraliturgiques, donc qui accompagnent les prières, en fait, tout ce qui est vraiment fixé dans l'office divin. Il y a donc tous ces chants qui sont d'une extrême beauté et aussi des chants de louange à Dieu. Et dans lesquels, là, on trouve pas mal de représentations, soit transcendantes, soit plus corporelles de Dieu.
Alors, on est rassemblés justement autour de votre dernier ouvrage. Vous avez une œuvre déjà abondante d'historien, donc du judaïsme et de la tradition juive. C'est le petit monde, le corps humain, en quelque sorte le microcosme, donc les représentations dans la tradition juive du corps. Alors, je voudrais qu'on en vienne maintenant à quelque chose qu'on connaît tous et sur quoi on s'interroge, c'est-à-dire les pratiques corporelles, comment on gère le pur et l'impur, la sexualité, la question de la circoncision aussi, qui n'est pas toujours facile à comprendre quand on n'est pas à l'intérieur de la tradition juive, puisqu'on sait que dans le même temps, les scarifications, les percements ne sont pas autorisés. Alors comment ce corps, qui n'est pas dans une perspective dualiste, comme réceptacle de l'âme, qui est dans une sorte de continuité avec le divin, comment ce corps est-il le champ, finalement, de forces antagonistes qu'il faut régir à travers des pratiques bien précises ?
Je crois qu'on peut partir, là encore, de la Genèse et du verset qui dit que la créature humaine a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc il y a entre les deux un rapport de complétude, enfin une relation très étroite entre les deux. Et ce qui est important, c'est que le corps ne soit pas soit scarifié, soit mutilé, soit tatoué, ce qui serait bien sûr considéré comme une sorte d'atteinte et d'offense à la création divine, et notamment au corps, qui est imprégné donc d'une parcelle de sainteté. On parle dans les textes mystiques des étincelles de sainteté venant de Dieu qui sont qui imprègne le corps. Donc il y a une part de sainteté du corps et donc il faut le respecter et toute atteinte au corps est en quelque sorte considérée, notamment en raison de ces relations entre le haut et le bas, comme une atteinte directe à la divinité. Donc l'important, c'est la notion de complétude et d'intégrité. Il ne faut pas abîmer le corps, ne faire couler le sang, par exemple, ne pas le scarifier, les tatouages sont interdits. Et la seule pratique qui est autorisée, enfin, il y en a d'autres, mais enfin, la principale, c'est effectivement la circoncision.
Mais préconisée même.
Oui, préconisée, absolument.
C'est incontournable.
Oui, incontournable.
Parce qu'on s'aperçoit en vous lisant que... au milieu de ce foisonnement, finalement, de perceptions contradictoires et de représentations contradictoires, ça, c'est pratiquement commun à, oui. à toute la, à la tradition juive. Ça n'a jamais été remis en question,
non,
la circoncision.
C'est une sorte de...
Alors,
on pourrait dire, c'est pas un dogme, disons, mais c'est un fondement, disons, de la singularité, de la particularité donc, du peuple juif, que le huitième jour, donc, de faire circoncire l'enfant mâle. Et cette circoncision, qui s'appelle en hébreu Brit Mila, veut dire justement l'entrée dans l'alliance de Dieu. Donc c'est, alors ça a une connotation, disons, sociétale, communautaire, c'est-à-dire que c'est ce qui montre l'appartenance au peuple juif, donc à son passé, à son présent et aussi à son futur. Ça a aussi une dimension mystique, en ce sens que le phallus est, dans la Kabbale notamment et dans le Zohar, assimilé au Vav, enfin à la lettre Vav, la lettre du nom divin de Yahvé. Et donc le fait d'enlever cette partie du phallus,
le prépuce
est considéré comme l'adjonction de la lettre He, donc c'est mettre et graver sur le corps du nouveau-né, donc cette partie du nom de Dieu, et donc c'est une manière d'intégrer donc ce nouveau-né, ce nouveau venu au monde, dans la communauté d'Israël. Et c'est aussi une manière, comme le disent les textes mystiques, kabbalistiques, et notamment le Zohar, une manière de relier ce qu'on appelle des séphirotes, c'est-à-dire des attributs divins, et donc de relier le corps directement à l'en haut et au monde supérieur. Donc ça a une dimension sociale, une dimension politique, si l'on peut dire, et aussi une dimension religieuse et mystique, et aussi, comme vous le disiez justement, cela fait partie de ces rites qui distinguent, qui classifient ces systèmes symboliques que, par exemple, Lévi-Strauss a très bien analysé, où il y a ces séparations entre le pur et l'impur, le haut et le bas, et donc toutes ces catégories qui permettent d'inscrire l'individu, le corps, dans tout un système extrêmement complexe d'interdits et de choses permises et interdites, donc du licite et de l'illicite, du pur et de l'impur, du haut et du bas, de la droite et de la gauche, enfin toutes les catégories anthropologiques qui singularisent chacune des cultures.
Alors avec une représentation dans la tradition juive du corps comme un champ de force antagoniste.
Voilà.
Et une représentation de la sexualité qui est ambivalente, puisque ça peut être le lieu vraiment de la plus grave faute, et ça peut être au contraire, et ça c'est quand même assez absent me semble-t-il de la tradition chrétienne, comme une sorte de lieu de la réconciliation, de l'unité primordiale.
Oui, alors il y a les deux aspects, c'est-à-dire que lors de la création, dans les récits, enfin dans la mythologie des récits de la création, il y a aussi ce qu'on appelle le Sitra-Hara, c'est-à-dire l'autre côté, le côté du mal, le côté des démons, le côté du Satan, enfin des forces démoniaques. Et donc il y a toujours cette lutte entre, disons, le bien et le mal, entre des forces positives et négatives. Et le corps est le lieu par excellence de cette guerre entre ces deux principes antagonistes. Et justement, chacune des parties du corps peuvent être au service du bien, et donc c'est tout, notamment dans les récits et la littérature éthique qui est très importante dans le judaïsme, la manière de bien se conduire et de discipliner le corps pour aller dans, disons, le chemin de la justice, de la Torah. Et au contraire, il y a un plaisir ou des désirs ou des pulsions qui sont trop dominantes, qui sont du côté du mal, du côté de ce côté gauche par rapport à la droite, et donc qui engendrent toutes sortes de perturbations, de dérèglements et l'introduction dans un domaine qui peut avoir des conséquences tout à fait néfastes. Donc toute cette littérature est fondée sur cette division, et notamment dans les littératures éthiques, beaucoup de conseils justement pour éviter que cette partie négative, dépréciative, démoniaque, disons, ne prenne le dessus. Et donc, il y a cette opposition entre, disons, le chemin du bien, le chemin de la rectitude, le chemin de la Torah par rapport justement aux organes et aux parties du corps, et au contraire, le danger qu'il y a à transgresser et à se laisser emporter par ce déferlement de pulsions.
Alors avec, et malheureusement on n'aura pas le temps de développer là-dessus, mais une attention particulière qui est portée au fluide. Au fluide corporel, oui. Que ça soit le sperme, le sang menstruel, ça c'est très spécifique de cette tradition.
Oui, absolument. Et là aussi, on voit ce qui est important, c'est, disons, d'éviter tout ce qui peut être du côté de l'hybridité, de la mixture, de ce qui brouille les catégories. Donc ces catégories anthropologiques sont extrêmement importantes comme facteurs de systématisation, de classification. Et donc ce qui est dévalorisé, c'est tout ce qui crée une sorte de porosité qui mélange et qui mixte des catégories qui sont extrêmement fondamentales dans la définition du judaïsme. Et donc, tous ces flux, tous ces moments où la personne, qu'elle soit masculine ou féminine, se laisse emporter par ses désirs, eh bien, comporte une part évidente de dangerosité, de danger et de domination des forces du mal.
Jean Baumgarten, on va finir plutôt sous l'angle de la joie de vivre avec cette musique klezmer. Et quand on lit votre ouvrage, donc consacré au corps dans les textes de la tradition juive, Le Petit Monde, donc qui vient de paraître chez Albin Michel, on s'interroge, comme vous le faites à la fin, sur l'existence véritablement d'une tradition, parce que vous analysez toutes ces interprétations qui sont, et vous avez un très joli mot, vous parlez de pluralité buissonnière. Et buissonnière, mais au point de ne plus... on s'y perd, on se demande où sont les points de repère vraiment fixes. Alors, il y a une tradition ou il y a juste une espèce d'effervescence comme ça, buissonnante, et qu'on ne peut pas rassembler, puisqu'il n'y a pas de dogme central dans la tradition juive.
Alors, par rapport peut-être à d'autres traditions dans lesquelles il y a une autorité, que ce soit le pape ou des... qui régente les discours dans le judaïsme du fait de l'exil, de la dispersion, et donc de cette pluralité, cette poussière de communauté, eh bien ce sont les rabbins qui étaient les autorités et qu'on venait interroger. Et donc ça explique cette pluralité, et il faut parler de tradition au pluriel, avec des points de vue tout à fait antagonistes, tout à fait opposés. Et ce qui est important dans le judaïsme, c'est l'idée de discussion, et voire de controverse au sens talmudique du terme. Et c'est une culture du choix, de la discussion, de la controverse exégétique. Et c'est ce commentaire et cette lecture infinie des textes qui est tout à fait fondamentale et qui oblige à ne pas considérer la tradition comme une, mais comme plurielle.
Un faisceau de tradition, donc le petit monde, le corps humain, dans les textes de la tradition juive, de la Bible aux Lumières. Il y a des passages d'ailleurs extrêmement divertissants, et ça vient de paraître aux éditions Albin Michel dans la bibliothèque Histoire, à lire aussi un récit absolument formidable qui éclaire en quelque sorte par la bande cette histoire. C'est le récit de Shulemden, celui qui va vers elle ne revient pas. C'est le récit d'un évadé d'une communauté extrêmement stricte, elle, puisqu'il y en a dans cette tradition, les Xver. Et il a défroqué, si j'ose dire, et il est parti, raconte ce récit. Ça vient de paraître aux éditions Globe. Voilà, à noter également que la revue Le Monde de la Bible, revue trimestrielle, donc se consacre pour son numéro de mars à mai à Qumran, 70 ans après, donc les manuscrits de la Mer Morte. Et ainsi se termine Tout un monde, le magazine des cultures, à la prise de son Cédric Châtelut, à la réalisation Vanessa Nadjar, Tout un monde, chaque samedi avec la collaboration de Claude Armand de Castio, vous est proposé par Marie-Hélène Freissé. Et c'est sur France Culture que vous attend Vincent Charpentier. Bonsoir Vincent.
I'm alive like a mom.